Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Salut, c'est Madame Meuf. C'est toujours le mois spécial amour et j'avais prévu aujourd'hui un sujet sur l'amour vrai. Eh bien, je vais pas du tout faire ça. Je vous explique. En fait, voilà, je voulais faire un débat. Est-ce que le vrai amour, c'est celui qui transcende, c'est celui qui bouscule toute la vie, c'est la passionne? Ou alors, est-ce que c'est celui qui dure, qui accompagne, qu'on travaille sur la durée? Un sujet un peu bac philo slash série télé slash romantisme du 19e siècle. De toute façon, ce débat, je l'aurais conclu par écoutez, de toute façon, il y a plusieurs amours, il y a plusieurs moments dans une vie, il y a évidemment plusieurs personnes. Qui sommes-nous pour définir ce qui est mieux? Voyons bien ce qui nous va individuellement. Très bien. Eh bien, nous n'aurons donc pas ce débat parce que, au regard de l'actualité, j'ai quand même très très envie de dire qu'il y a quelque chose que l'amour n'est pas, bien qu'il puisse s'y apparenter au début, eh bien c'est l'emprise. Et il se trouve justement que nos représentations de l'amour, les représentations qu'on se fait de l'amour, ne nous aident pas beaucoup à comprendre l'emprise. Alors on va parler passion et emprise, amour à la papa et emprise, amour de soi et emprise. Voilà, après le générique.
Salut, c'est Madame Meuf.
Oh yeah.
Et bam. Et bam, c'est Madame Meuf.
Aujourd'hui, à moins de vivre dans une grotte des cavernes ou de ne regarder que Pascal Pro, eh bien, on entend la voix de trois femmes, Vanessa Springora, Judith Chemla, Judith Godrèche, hein, trois paroles de femmes qui, tout à leur manière, décrivent une facette de l'emprise qu'elles ont vécue. Alors, qu'est-ce que c'est l'emprise? Petite tentative de définition. En anglais, c'est assez rigolo, on dit « the grip ». Même si tu as un niveau d'anglais qui est celui de Jean-Pierre Raffarin, je crois que tu as saisi hein, l'image « the grip », ça signifie « la prise ». La poignée, la poigne. Et d'ailleurs, c'est cette image aussi que Judith Godrèche utilise. Hein. C'est comme une main qui se referme sur votre cœur et qui serre, et qui serre, et qui serre. Il y a une psychothérapeute qui s'appelle Sylvie Tenenbaum qui, elle, définit l'emprise psychologique comme une effraction psychique, avec un rapport asymétrique toxique du type dominant-dominé, qui est masqué par différentes sortes de manipulations évidemment complexes, des plus douces, des plus insidieuses, aux plus violentes, et de stratégies perverses plus ou moins subtiles. Pourquoi est-ce que j'ai eu l'idée de rapprocher ce sujet de celui que j'avais prévu au départ, c'est-à-dire celui sur la passion, etc. C'est parce que dans le love bombing, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, les débuts passionnels de l'amour, il y a des bombes à retardement qu'il faut déceler. Mais évidemment que ça n'est pas facile, puisqu'il y a des similitudes avec ce qu'on considère comme l'amour vrai, le grand amour. Au départ, on est quand même pas mal à avoir envie d'un couple fusionnel. On le rend très romantique, cet amour, comme ça, ah, on est tout pour l'autre. La passion d'ailleurs, comment on la définit? Ça vient du latin patior, 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 souffrir, qui vient lui-même du grec pathos, 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 la souffrance. Alors, la passion elle-même, elle peut augmenter la puissance d'être. C'est pas moi qui le dis, c'est Spinoza. Mais c'est vrai, la passion, il y a évidemment dedans du désir, elle nous donne de la joie, de l'amour, elle nous donne les fameuses petites ailes, hein, vous savez, elle nous donne envie de faire des choses, de conquérir. D'ailleurs, au 19e siècle, les romantiques évidemment exaltaient cette vision de l'amour passionnel. Hein, c'était voilà, l'extrême sensibilité de notre cœur et le sentiment de vivre vraiment intensément. Dans la psychologie plus récente, la passion, hein, du grec et du latin, c'est pas super top, hein, rappelez-vous, eh bien, elle commence à considérer la passion quand même comme une idée fixe, affective, qui rend du coup monomaniaque hein, autour du sujet de l'amour et qui peut être destructrice pour sa propre personnalité. Lacan, il n'est pas très très friand d'ailleurs de cette passion amoureuse. Pour lui, justement, elle implique une confusion entre l'image de soi, oh, je me cède à l'autre, et l'image de l'autre, oh, il est si génial. Et donc lui-même, il conclut, Lacan, que c'est bien pour ça que l'amour rend fou. Oui, mais là encore, dans les débuts d'amour, on a envie. On a envie de tout partager avec l'autre, de tout lui faire connaître de nous-mêmes. Certes, mais il y a une différence entre influence et emprise, entre partage et colonisation. Dire « Ah, j'adore le cinéma de Wong Kar-wai, ah, j'adore la bachata et Pierre de la Star Academy » ne signifie pas « Je te donne l'ordre de n'aimer que ça parce que je te domine intellectuellement ». D'ailleurs, si jamais on se trouve un peu gêné d'aimer ce qu'on aimait avant, parce que l'autre aurait des goûts incroyables. Ah ! Et bien ça, c'est un premier indice. Là où il peut y avoir confusion aussi, ou similitude, c'est au niveau de la place que l'autre occupe dans notre vie, en début de relation. Dans l'amour-passion, c'est pareil. Hein. L'autre est quand même vachement notre priorité. Il occupe notre cervelle parce qu'on pense à lui. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'amour-passion déplace beaucoup la norme et renverse un peu les systèmes attendus ou les systèmes stables ou les systèmes bourgeois. Je cite ma propre psy, hein, et pourquoi pas, qui dit « Si la passion est si mal vue, c'est parce que son impétuosité menace l'ordre social. » Elle dit ça dans Marie-Claire. Voilà. Et comme quoi, elle parle pareil un petit peu à tout le monde. Hein, celle-ci, elle s'appelle d'ailleurs Sophie Cadalen, je ne l'ai pas dit. Et elle continue « Le passionné est un obsessionnel qui souvent délaisse d'autres sphères de sa vie. Il peut oublier son job, ses gosses et l'ensemble de ses obligations pour rejoindre l'être qu'il aime. » Absolument. Qui n'a pas couru comme ça, genre « Ah, oh, j'arrive, Jean-Pierre, oui !» Ça, c'est de la délectation. On a envie, enfin, pas tout le monde, mais d'ailleurs, oui, d'ailleurs, pas tout le monde, mais parfois, on a envie de se jeter dans ce côté hors norme, hors la loi. Waouh, j'y vais à fond. Mais quand je dis « votre esprit est tout à l'autre quand vous êtes amoureux », c'est votre esprit qui fonctionne. C'est votre libre arbitre. Ça n'est pas pareil que l'autre prenne le pas sur vous. C'est à ne pas confondre avec une prise d'otage. Judith Chemla, elle en parle d'ailleurs, elle utilise vraiment ce terme de prise d'otage, notamment dans les moments importants de sa vie. Par exemple, l'autre qui ne peut pas apprécier que tu vives sans lui, il peut avoir très très envie de te gâcher ton moment important, de t'empêcher de dormir la veille de ton spectacle, est-ce qu'elle disait, la veille d'une Traviata, des engueulades monstres ultra-violentes, comment tu veux travailler le lendemain. Évidemment, tout ça, ce n'est pas de l'amour. Tout ça, c'est de la possession, à ne pas confondre avec cet amour-fusion du départ, cette volonté d'amour-fusion. C'est de la possession avec des relations dominant-dominées. D'ailleurs, le mot « emprise », c'est pas moi qui le dis, j'ai lu ça dans Philosophie Magazine, c'est un mélange entre le mot « empire » et le mot « empreinte ». Et donc, l'emprise, elle a cette double volonté, en fait, à la fois d'être le maître de l'empire et de commander et de régner, et à la fois de laisser une marque. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui avec ces trois femmes qui parlent, donc je répète leur nom, hein, Judith Chemla, Judith Godrech, Vanessa Springora, qu'est-ce qui se passe? Ça nous permet de commencer vraiment, vraiment à identifier les étapes de l'emprise. Et alors, si ce n'est pas pour nous, quoique personne n'est immunisé contre l'emprise, hein, parce que ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ta soi-disant force, ce n'est pas ton talent ou ta maturité hors du commun qui vont te préserver de ce danger-là. Mais même si ça n'était pas pour nous, ne serait-ce que pour reconnaître cette emprise, ne serait-ce que pour aider les autres, eh bien, je vous propose de détailler les étapes qu'elles ont décrites chacune leur tour de manière très similaire. Alors les étapes. Pour qu'il y ait emprise, il faut à la base qu'il y ait une brèche, une faille. La personne dominante, elle va s'immiscer dans cette faille, dans ce vide. C'est-à-dire que la personne qui va être sous emprise, elle avait un espace à remplir à ce moment-là. Un espace disponible. Que ce soit le sentiment d'avoir jamais été écouté avant, ou que ce soit l'admiration, que ce soit de connaître pour la première fois l'émoi amoureux, que ce soit l'inexpérience. En tout cas, voilà, la personne dominante va utiliser cette vulnérabilité, ce moment-là, et se rendre la personne charismatique, le nouveau repère. Là, plus précisément, d'ailleurs, c'est peut-être même plus les étapes de l'amour-passion, mais c'est l'étape de ce qu'on peut aussi appeler l'amour vrai, l'amour rassurant, la maison. On va s'occuper de toi. Ouais, ouais. Ensuite, il y a l'étape de la dépossession. À la fois une dépossession de l'esprit et du corps. Et c'est assez effrayant et assez passionnant, mais dans la dépossession de l'esprit, on figure assez bien ce que ça veut dire. Hein, c'est-à-dire que le dominant va apprendre à la personne ce qu'elle doit penser, comment elle doit parler, ce qu'elle doit aimer, ce qu'elle doit avoir comme référence, comment elle doit se tenir en société. La dépossession des sens, c'est Judith Chemla qui parle de ça hyper bien. Il y a l'idée d'un corps possédé, en fait, coupé de ses propres réactions. C'est-à-dire que tu n'as même pas la réaction qui te fait avoir normalement quand tu as une grande peur, qui te fait avoir la réaction du danger. Et bien justement, Judith Chemla, elle explique qu'elle n'avait plus la peur, elle la ressentait pas physiquement, parce que les victimes ne s'appartiennent plus, et donc elles sont même plus en mesure d'assurer leur propre protection. La phénoménologie, elle appelle ça le corps propre, c'est-à-dire le corps tel qu'il est vécu, expérimenté dans sa propre chair intime. Et d'ailleurs, posséder le corps des femmes, c'est quand même, évidemment, un des sujets majeurs de l'emprise. Ensuite, la stratégie de contrôle, hein, Judith Godrèche, elle l'explique, pendant toute leur vie commune, toute la vie sociale était gérée par Benoît Jacquot, qui lui disait ce qu'elle devait manger, comment elle devait s'habiller, couper ses cheveux, etc. Il y a l'absence d'esprit critique, parce qu'une des stratégies des agresseurs, c'est qu'ils vont façonner un discours, une contre-réalité, une nouvelle explication. Judith Chemla l'explique, quand elle recevait des coups, c'était son agresseur qui criait genre « Mais qu'est-ce que tu me fais ? Qu'est-ce que tu me fais ?» De toute façon, c'est toi qui me rends comme ça. Et donc, le dominant inverse la charge victimaire. C'est ce que Hélène Frappa, je vous en ai déjà parlé, dans son bouquin « Le gaslighting », appelle la nouvelle façon de faire taire les femmes, voilà, de les faire passer pour folles. Et aussi de les convaincre que le problème, c'est elle et que la honte, c'est de leur côté. Le gros problème de l'emprise aujourd'hui, et d'ailleurs, il suffit d'écouter cette excellente interview d'Annie Dupéré à la radio, je ne sais pas si vous l'avez entendue, qui disait « sous-emprise, je veux bien, enfin quand même, consentante !» La question du consentement, évidemment, Vanessa Springora, elle en parle, c'est le nom de son livre. Et elle parle justement du paradoxe. Comment admettre que tu as été abusé quand tu ne peux pas nier que tu as été consentant à l'être. En réalité, l'emprise, elle rend complètement la question du consentement caduque. La personne, elle a abdiqué ses droits sur elle-même. Elle a laissé, en fait, la personne rentrer dans son esprit, utiliser son corps, le contrôler. Avec une conscience envahie, comment peut-on parler de consentement ? Évidemment que le oui, il est pas assumé, il est pas franc, il est pas éclairé par rapport à ce qui se passe. D'ailleurs, est-ce qu'on entend beaucoup de femmes dire « Oui, bonjour, écoute, moi ça va pas mal, en ce moment je suis sous emprise. » Et non, ça ne s'utilise jamais au présent. Puisque tu es subjugué et que tu ne le vois pas et que tu ne le conscientises pas, tu dis « j'étais sous emprise ». Et alors comment on peut réussir à utiliser enfin cette phrase au passé et à rentrer dans la déprise, je ne sais pas si ça se dit, ou en tout cas à sortir de l'emprise ? Il y a un jour, à un moment donné, quelque chose qui se passe. Et souvent, c'est quelque chose, on le voit sur les autres et pas sur soi et on le reconnaît. Judith Godrèche, elle dit que c'est la lecture du livre de Vanessa Springora, Le consentement, qui lui a fait réaliser, d'ailleurs apparemment elle n'arrivait même pas à le finir en une fois, qui lui a fait réaliser que c'était absolument similaire avec ce qu'elle avait vécu. Donc de reconnaître chez l'autre, de voir qu'on n'est pas seul à l'avoir vécu. Judith Godrèche aussi, elle en parle, elle est maman, d'avoir la volonté de l'expliquer à sa fille pour pas que ça lui arrive. Voilà, en fait, voir ce qu'on fait subir aux autres, c'est plus facile à voir, parce qu'on est à ce moment-là spectateur, que quand on y est soi-même. Bien évidemment que pour que les autres se reconnaissent ou le voient, eh bien, le rôle de la parole et du partage d'expérience est absolument crucial dans la sortie de l'emprise. Il y a une autre autrice qui s'appelle Pascale Jamoul qui dit « L'emprise vous capture la parole et vous ôte l'imaginaire ». Et donc, oser reprendre le contact avec des tiers, amis, extérieurs, bienveillants, en qui on a confiance, qui nous connaissent bien, voilà, ou alors avec un médecin, qui peuvent aider la personne à retrouver son esprit critique, à nommer, à mettre des mots sur sa souffrance et aussi à déculpabiliser d'avoir laissé entrer l'agresseur. Parce que évidemment, quoi qu'il arrive et quoi que dise, comment elle s'appelle cette actrice déjà là qu'on avait complètement oubliée là, Annie Dupéré, les victimes, ce sont ces femmes qui parlent. Un dernier petit conseil, si jamais vous êtes dans une relation d'emprise ou complètement à chier ou négative, vous ne savez pas comment la nommer, en tout cas, moi j'ai vraiment un vrai conseil, je vous conseille de lâcher l'idée de vouloir comprendre pourquoi l'autre a réagi comme ça. Voilà, ça c'est très très long des fois, mais en fait vouloir comprendre, c'est encore donner la place à l'autre. Déjà pour nous manipuler, mais aussi le lien avec l'autre. Voilà, je crois qu'il faut vraiment lâcher l'autre, on s'en fout qu'il souffre, on s'en fout, c'est pas lui la victime, on ne veut pas comprendre, tant pis s'il a été blessé ou traumatisé, il faut cesser de vouloir comprendre, voilà.
Instant conseil. Instant bien-être.
Et je vous rappelle donc le nom des livres et de la série de Judith Godrèche. Alors, Vanessa Springora, Le consentement. Judith Chemla, Notre silence nous a laissé seuls. Et la série de Judith Godrèche, Icon of French Cinema, que vous pouvez voir sur Arte. Voilà, merci de m'avoir écouté, petits amis. Oui, il n'y avait pas beaucoup de blagues aujourd'hui, j'avoue. Allez, j'en ferai jeudi, rassurez-vous, tout va bien. Bon, et j'ai cette voix terrible aussi, rassurez-vous. Normalement, jeudi, elle sera réparée également. Je n'ai pas crié sur un mec, tout va bien. Je n'ai pas de problème de relation d'emprise. Non, j'ai un peu trop crié par ailleurs. Voilà, allez, salut, petits amis, à jeudi.